Bien. Alors, soyez les bienvenus au château de Coppet. Nous sommes de retour, vous avez remarqué, parce que nous avons eu deux conférences à la Fondation Baudemaire qui a accueilli cette magnifique exposition « L'esprit de liberté » sur Germaine de Staël et Benjamin Constant. Alors, vous l'avez remarqué, cette année est particulièrement riche en conférences, en pièces de théâtre, en concerts, tous à l'honneur de la Châtelaine et son bicentenaire. Ce soir, les rencontres de Coppet ont voulu mettre l'accent non seulement sur la Châtelaine, mais aussi sur son environnement. La conférence aujourd'hui s'intéresse donc aussi aux aspects sociologiques, politiques et littéraires du canton de Vaud, terre d'élection de nombreux exilés à un moment décisif de l'histoire du canton et l'histoire du monde. Pour ce sujet, nous sommes ravis d'avoir un expert dans la matière, avec nous. C'est en effet Olivier Meuly, fin connaisseur de la politique suisse. Il apparaît d'ailleurs souvent à la radio, je l'entends souvent le matin. Et en fait, il a publié plusieurs livres sur l'histoire suisse, dont plusieurs bibliographies de personnalité politique. Il est aussi le directeur scientifique du livre Histoire vaudoise et c'est déjà un livre de référence richement illustré. Avant de lui passer la parole, j'aimerais, comme c'est l'habitude, de remercier tous nos sponsors. C'est la commune de Coppet, bien sûr, Terre Sainte, le château de Coppet avec sa fondation Autonin de Sanville, la loterie romande, Sandos, Retraite populaire, fondation UBS pour la culture et la fondation Casino Barrière à Montreux. C'est aussi une occasion pour moi de remercier mon équipe. Il y a Anne Bandley, la vice-présidente, assise devant. Je ne vais pas demander qu'elle s'élève parce qu'elle a eu un petit empêchement, disons. Ah, tu peux quand même, voilà. Elle mérite un applaudissement. Et il y a aussi Véronique Biel, responsable pour les concerts. Véronique, tu peux te lever ? D'ailleurs, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, je ne me suis pas présentée. Mon nom est Martine Apribe et je suis la présidente du Cercle des Amis du Château de Coppet. C'est d'ailleurs ce mot-là qui me donne aussi l'occasion de vous inviter, de devenir membre. Vous participez à des jolis voyages, vous contribuez à l'héritage de ce magnifique château. Voilà, il y a des informations à l'entrée et vous pouvez aussi m'approcher. Je vous rappelle aussi, dès maintenant, que l'année stalienne va se terminer avec une conférence le 12 novembre. Ce sera la journée de Coppet, comme nous l'avons appelée. Il y a pièces de théâtre pour enfants, concerts et conférences qui s'enchaînent, tous sur le motto entre tradition et modernité. Merci de noter déjà donc, le 12 novembre dans votre agenda. Toutes les informations se trouvent sur notre site. Alors, je reste ici. À la fin de la conférence, ne nous quittez pas. Nous avons, comme d'habitude, prévu un cocktail dans les caves. Donc, vous devez quitter cette salle pour aller aux caves. Et je me réjouis de vous accueillir là-bas. Alors, Olivier Meuly, la parole est à vous.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de venir parler du Pays de Vaud, puis canton de Vaud, dans la maison de Germaine de Staël. Mais l'exercice est bien sûr hautement délicat, car comment comprendre, comment illustrer, identifier les liens entre Germaine de Staël et la terre vaudoise? On sait que Germaine de Staël n'avait pas une estime gigantesque pour les braves vaudois et les Suisses en général d'ailleurs, mais il se trouve que son père avait acquis la baronnie de Coppet et que c'est ici qu'elle trouva malgré tout le repos et un refuge où elle put déployer ses talents de salonnière, mais surtout de femme de lettres et de pensée. Et d'autant plus que pour trouver des liens entre Germaine de Staël et le Pays de Vaud, c'est encore plus compliqué parce que non seulement les liens sont ténus parce que Germaine de Staël a vécu un peu dans une bulle vaudoise, mais dans un monde en effervescence, y compris la Suisse, mais en plus le Pays de Vaud, et j'y reviendrai bien sûr, doit une fière chandelle à Bonaparte puis Napoléon. Alors évidemment, une double raison pour aborder les liens entre Germaine et le Pays de Vaud de façon circonspecte, une terre qui ne lui dit pas grand-chose et pour laquelle elle éprouve peu de sentiments, et en même temps une terre qui sait sa dette profonde pour un homme qu'elle exècre, et d'ailleurs un homme qui le lui rend bien par ailleurs. Néanmoins, travailler sur les deux concepts, Germaine de Staël et Pays de Vaud, en parallèle, permet malgré tout de relever certaines connexions que j'essaierai de mettre en avant, comme si malgré tout les idées que Germaine de Staël a mis en place, a développées, a approfondies, correspondaient assez bien en réalité à ce qui se tramait dans cette terre vaudoise coincée entre le monde germanique et le monde français. Quand naît Germaine de Staël, le Pays de Vaud n'est encore qu'une dépendance de la République de Berne, de leurs excellences. Depuis 1536, Vaud appartient à Berne, Berne qui a introduit la réforme. Alors, est-ce que les Vaudois sont forcément malheureux d'être bernois à l'époque où Germaine de Staël voit le jour? Loin de là, en réalité. En règle générale, les Vaudois, qui sont assez accommodants, et le sont d'ailleurs durant les décennies qui suivront, et je pense encore assez aujourd'hui, vivent dans un climat assez favorable. Certes, il y aura des problèmes, je vais y revenir, mais si les paysans du Gros de Vaud, eux, ont des raisons de se plaindre de la fiscalité, en revanche, les régions de la montagne, le pays d'en haut, les marches du Jura, les régions jurassiennes, eux, bénéficient d'un climat fiscal beaucoup plus propice. Les Bernois favorisent les régions de montagne. Et puis, les Bernois ne sont pas des mauvais maîtres. Ils encouragent d'ailleurs les innovations, la recherche, la modernité, les réformes sur le plan agricole en particulier, la société économique, SM dans le canton de Vaud, plusieurs succursales, si je puis dire, voient le jour et il y a un réel effort de modernisation, de développement d'une terre, d'une région a priori agricole, parce qu'il est vrai, les tentatives de développer une industrie en terre vaudoise échoueront. Le verre à soie, il y aura des tentatives d'introduire la culture du verre à soie qui aurait pu peut-être amorcer une industrie textile dans le canton de Vaud, mais cela échouera. Et puis Vaud, fier de ses contrées viticoles, le vin est déjà un produit important de l'économie vaudoise, ou bien viticole et agricole, c'est aussi une terre de culture. Une terre de culture avec une vie dans une vie réelle, intense, les salons, Madame Necker, évidemment, la future Madame Necker tient un salon à Lausanne, le docteur Tissot est bien connu, et l'imprimerie est une industrie, elle, florissante en terre vaudoise, malgré la censure bernoise. La presse naîtra lentement, en 1762, voilà le jour, la feuille d'avis qui est l'ancêtre de 24 heures, mais c'est clair que la vie de la presse est relativement ténue. En revanche, l'imprimerie, elle, est efficace, même si Vaud ne verra pas naître ou ne participera pas à la diffusion de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, elle fera en réalité mieux que ça Le Pays de Vaud fera mieux que ça, vu qu'il aura sa propre encyclopédie, comme vous le savez, celle de Bartolomeo de Felice, l'encyclopédie d'Yverdon, qui sera l'autre grand texte de la raison conquérante du XVIIIe siècle, et de ces grands textes des Lumières, les Lumières vaudoises, comme a intitulé Léonard Burnand son chapitre dans l'histoire vaudoise, que Mme Pribé rappelait à l'instant. Alors, il y a une vie intellectuelle dense, une vie de rencontres, de recherches. On connaît les passages de Voltaire, de Gibbon, des personnages qui vont montrer une image vaudoise qui, sort de l'image purement, de l'iconographie purement agricole qui caractérisait le canton. Ainsi, à travers ces personnages, après ces actions, à travers ces développements, Vaud s'inscrit dans non seulement ces Lumières, le siècle des Lumières, mais mieux que ça, s'inscrit aussi dans la grande rencontre des deux, je dirais, les deux philosophies majeures de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui vont alors marquer considérablement tout le développement futur post-révolutionnaire à partir du début du XIXe siècle. C'est le rationalisme, bien entendu, porté par les Lumières, mais également son antithèse, le romantisme. Et là, évidemment, ça annonce déjà la pensée même de Germaine de Staël, cette rencontre avec le moi, l'individu libre, libéré des ancestrales tutelles, l'individu libre guidé par sa raison, mais un individu libre qui est lui-même confronté d'entrée de cause à une réaction, à une autre façon de voir le monde, qui dit oui, la raison doit être première, mais la raison ne peut pas s'abstraire d'une réalité plus complexe qui doit aussi faire appel aux sentiments ou à ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne peut pas ni chronométrer, ni mesurer, ni ramener à des phénomènes physiques visibles. Et le romantisme va s'articuler autour de cette réaction, et à Lausanne va naître un journal que Myriam Nicoli a abondamment analysé, le journal de Lausanne, publié entre 1770 et 1780, qui va être extrêmement intéressant et qui montre bien cette ambivalence intellectuelle qui commence à prévaloir et qui va créer ce bassin dans lequel va macérer toutes les pensées politiques qui émergeront à partir du XIXe siècle. Et ce journal de Genève va créer un lieu de... Ce journal de Lausanne, pardon, va créer ce lieu de rencontre entre la raison et une raison qu'il faut vulgariser. Les progrès scientifiques, il faut les expliquer aux lecteurs de ce journal, au petit peuple vaudois, lausannois, qui a le droit d'accéder à ces nouveaux savoirs et qui va d'ailleurs profiter abondamment. Il y a des lecteurs que l'auteur que je citais a analysé qui montrent bien que cette vulgarisation de la pensée scientifique, des innovations scientifiques, était extrêmement bien accueillie et suivie. Et puis en même temps, ce journal va explorer les autres côtés de cette recherche scientifique foisonnante et qui s'inspire en même temps du romantisme, avec le mesmérisme, le somnambulisme, tous ces phénomènes qui seront après, par la suite, étayés par le somnambulisme qui fera longuement débat. Et tous ces phénomènes qui sont scientifiques, mais qui sont ce côté obscur de la scientificité claire et nette, ébauchée par Descartes. Et ce 19e siècle finissant, ce 18e siècle finissant, pardon, fait se rencontrer ces deux mondes, à la fois dans une tension créatrice, mais aussi une tension qui peut être extrêmement dangereuse, et la Révolution française se nourrira de ces deux sources avec les forces et les faiblesses qu'on lui connaît. Et puis ce romantisme est aussi ancré dans cette nouvelle approche, justement à la fois scientifique éprouvée, mais en même temps romantique dans le sentiment qu'est la nature. C'est Albrecht de Haller, c'est tout cet univers où la nature devient un acteur majeur de la vie de la pensée, à la fois comme objet de recherche, connaître comment s'est créée, en fait, cette fameuse nature, en dehors des enseignements religieux, même si ceux-ci avaient déjà été de plus en plus mis à mal à partir de la Renaissance, mais avec cette accélération que créent les Lumières, mais également cette nature comme lieu de ressourcement, comme lieu où l'humain retrouve son unité organique, où l'être humain retrouve une connexion avec le grand tout, que théoriseront bien sûr les romantiques allemands par la poésie, mais aussi par la science. On connaît le fameux Ritter qui poussait tellement loin les recherches sur l'électricité, ces phénomènes invisibles et pourtant tellement réelle. Il poussait tellement loin cette recherche qu'il faisait des expériences sur lui-même. Évidemment, il en est mort, mais évidemment, sa contribution à la science aura été un grand sacrifice, mais assez utile malgré tout. Et au-delà de cette nature, de la raison de l'individu, c'est le lien entre l'individu et le collectif qui est en train d'être repensé. Et là, on annonce là aussi l'apport, un des apports majeurs de Germaine de Staël au libéralisme, et j'y reviendrai à la fin de ma conférence. C'est avec cette idée de la nation qui émerge, et la nation helvétique qui est encore très abstraite, c'est le moins qu'on puisse dire à cette époque-là, mais qui commence malgré tout à prendre sens, à prendre forme. La société helvétique, qui naît dans les années 1760, sera la première expression de cette idée que ce territoire coincé entre le monde germanique et le monde francophone a une unité, a une histoire, a une identité également, et qui fera d'ailleurs que très rapidement, ce soit les Suisses de langue alémanique, évidemment, les Urschweizer, mais également les Suisses de langue française, se reconnaîtront dans les mêmes mythes, dans les mêmes visions d'une histoire, sans doute réadaptée au fil du temps pour se donner une vision du passé, pour comprendre son devenir. Alors, ce petit monde vaudois semble en effet fort idyllique, merveilleux, où tout le monde s'entend bien avec des bons maîtres bernois qui se soucie du progrès de l'agriculture et des populations. Mais, au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, et le phénomène va s'accélérer à partir des années 1770-80, il y a un gros hiatus qui se crée entre les maîtres bernois, qui seront de plus en plus considérés comme des occupants, et puis, pas tant les populations essentiellement paysannes, mais les élites urbaines. C'est dans les villes, à Lausanne un peu, mais surtout dans les autres petites villes moyennes du canton, Vevey, Morges, jusqu'à Yverdon, où les jeunes gens qui vont se former, pas tellement en France d'ailleurs, mais déjà en Allemagne, la harpe, Henri Monod, on en reparlera bien sûr, vont à Tübingen se former, c'est l'Allemagne, les universités allemandes qui attirent les jeunes Suisses qui veulent prolonger, approfondir leur formation, vu que l'Académie de Lausanne a certes bonne réputation, mais ne fournit pas des grades très élevés. Mais pour ces jeunes vaudois qui veulent faire carrière, qui sont ambitieux, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un plafond de verre. Alors aujourd'hui, l'expression est surtout employée pour les dames dans le monde économique. À l'époque bernoise, ce plafond de verre fonctionnait pour les jeunes hommes vaudois qui voulaient faire carrière, mais qui se voyaient systématiquement empêchés dans leurs projets par les contraintes politiques bernoises. Les vaudois ne pouvaient pas accéder au centre de pouvoir à Berne. Il y avait quelques exceptions, quelques chemins, bon, quelques familles pourront quand même siéger à Berne, mais enfin, c'est marginal. La seule voie qui parfois ouvrait quelques perspectives à ces jeunes gens, c'est l'armée, où il y a quand même quelques colonels vaudois, pas souvent d'ailleurs nommés pas avec l'accord des Bernois, souvent c'est par le biais du service de France qu'ils obtiennent ces privilèges, mais très peu en réalité accéderont vraiment au cœur du pouvoir, Jean de Saconnet étant une des rares exceptions. Alors, il y a ce climat de tension qui ne cesse de se durcir au fil du XVIIIe siècle, où ce n'est pas tant, je dirais, la mainmise, l'oppression bernoise qui dérange, c'est la morgue, c'est l'arrogance des Bernois. Il y a plusieurs textes de ces premiers révolutionnaires, Georges Boiseau, par exemple, Isaac de Velay, le mathématicien, qui dénoncent cette arrogance du pouvoir bernois et qui s'est ancrée dans une sensation de supériorité que, bien entendu, les jeunes vaudois ne peuvent plus supporter. Les Bernois, à ce titre-là, ne sont pas les seuls. Tout le XVIIIe siècle, que ce soit en Europe ou en Suisse, est marqué par une aristocratisation grandissante et de plus en plus virulente, où les aristocraties locales, les oligarchies locales, comme on dit en Suisse, donc celles qui gouvernent les villes et les villes-états, la Suisse est un conglomérat de villes-états, il ne faut pas l'oublier, eh bien, ces aristocraties, ces oligarchies se referment sur elles-mêmes, se imitent les modes en vigueur à la cour de France et en adoptent aussi les fonctionnements à l'égard et les comportements à l'égard de leurs sujets. À ce titre-là, l'épopée du major d'Avel, évidemment, ne reflète en rien l'ambiance vaudoise, mais est un symptôme, malgré tout, de cette tension grandissante, de ces blocages et de cette incompréhension qui va aller croissante entre l'autorité bernoise et les jeunes élites vaudoise. Dans d'autres cantons, il y aura un grand nombre de révoltes, à Berne d'ailleurs, avec le fameux paysan Leuenberger, Henzi à Lucerne, à Fribourg également. Donc il y a ces sentiments, ces révoltes paysannes qui apparaissent. Vaud, c'est totalement marginal, il n'y a pas de révolte paysanne. C'est Davel qui se prend pour la Jeanne d'Arc vaudoise, hein, qui est appelée par les voix de son subconscient, qui se pense le sauveur et le libérateur du pays de Vaud. Mais évidemment, c'est les Vaudois qui le trahiront, comme vous le savez. Donc, l'événement d'Avelien, le moment d'Avelien est purement presque anecdotique sur l'impact historique. En revanche, je pense, il faut lui accorder cette notion de symptôme d'une situation qui, peu à peu se délite. Et ces jeunes élites vaudoises, qui se voient privées de débouchés dès qu'elles veulent prétendre à des postes élevés ou dans l'administration ou dans la magistrature bernoise, vont commencer à s'organiser. Et c'est un lieu particulier qui va fonctionner comme une sorte d'état-major de la future révolution vaudoise, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née à Genève, assez rapidement elle va s'installer en terre vaudoise. Elle sera interdite une première fois en 1745 par les Bernois, plus à cause du secret qui l'entoure. Enfin, il n'y a pas vraiment un combat réellement politique à ce moment-là. En revanche, petit à petit, les choses vont changer, surtout quand, justement, la franc-maçonnerie va être le lieu d'accueil de toutes ces élites vaudoises et une grande quantité des futurs dirigeants de la révolution vaudoise et du jeune canton de Vaud libéré sont passés par la franc-maçonnerie, y ont testé leurs hypothèses philosophiques, y ont appris beaucoup, ont constitué, comme on dirait aujourd'hui, un réseau politique de première force. Antoine Miéville y est, le futur fondateur de la Gazette de Lausanne. Glaire, un des futurs directeurs. L'ARP, lui, il est franc-maçon, mais lui a été initié à Naples lorsqu'il guidait les enfants Lanskoy le prince Lanskoy à travers son voyage en Italie, et qui lui permettra ensuite d'être recruté par Catherine II pour s'occuper de ses petits-enfants et de nouer cette fameuse amitié dont je reparlerai bien sûr avec le futur Alexandre Ier, le tsar de Russie. Donc l'ARP est franc-maçon et les autres le sont en grande quantité également. Jules Muret qui jouera un rôle important par la suite également. 1789 sonne comme une sorte d'appel pour les Vaudois. La Révolution française devient un signal. On peut se libérer. Les Vaudois vont le fêter. À Rol, tout près d'ici, à Lausanne, des banquets sont organisés pour fêter 90-91. Cela déplaît fortement aux Bernois qui vont les poursuivre et notamment vont s'acharner sur un certain Amédée de la Harpe qui va quitter le canton de Vaud, qui va voir ses biens confisqués et qui va faire une carrière brillante au service de Bonaparte parmi un de ses généraux. C'est un des rares généraux d'ailleurs qui tutoie Bonaparte. Et il est connu, il est célèbre, Amédée de la Harpe, et cela sera assez utile pour le canton, parce qu'entre-temps, son cousin, Frédéric César, lui a dû quitter la cour de Russie où il enseignait l'histoire, la conscience universelle à ses protégés, aux frères Constantin et Alexandre, petit-fils d'Alexandre. Mais contrairement à ce qu'on a pu croire un temps, Frédéric César n'est pas limogé parce qu'il est républicain, au contraire. Ça arrangeait Catherine d'avoir préféré un Suisse républicain et neutre plutôt qu'un Français dont on ne savait pas très bien pour qui il travaillerait en définitive, s'il serait uniquement un enseignant, un précepteur ou bien un espion du roi. Donc elle préférait les Suisses républicains, mais sûrs politiquement, que des Français, peut-être officiellement républicains, mais dont les accointances et les loyautés étaient plus incertaines. Et Frédéric César de la Harpe, donc lui, devra quitter, non pas à cause des Bernois, qui ont essayé, bien entendu, de dire à Catherine, écoutez, c'est un ennemi de l'autorité, mais ça n'aura aucune prise sur Catherine. En revanche, Frédéric César de la Harpe refusera d'entrer dans le stratagème de Catherine II, qui visait à l'assassinat de Paul Ier, son propre fils, et donc le père d'Alexandre et Constantin. Et Frédéric César n'a pas voulu jouer ce jeu-là, et c'est ça qui déplaira beaucoup à Catherine, et il sera prié de rentrer. Mais il ne pourra pas rentrer sur terre vaudoise, il ira d'abord à Genève, parce que les Bernois ne veulent pas l'avoir dans leurs pattes. Mais quand Amédée se voit privé de ses biens, Frédéric César de la Harpe part à Paris, où il restera plus longtemps qu'il ne pensait d'ailleurs, j'y reviendrai également, où il va se démener pour inciter les Français à s'intéresser au cas suisse, notamment pour défendre l'honneur d'Amédée de l'Harpe. Alors, est-ce que c'est la franc-maçonnerie ? Est-ce que c'est Amédée qui va ouvrir toutes les portes à France, à Frédéric César de l'Harpe, auprès des membres du directoire et de tout l'environnement politique en place à Paris ? Les deux, sans doute, quoi qu'il en soit, les Français vont s'intéresser de plus en plus à la Suisse, à faire profiter, entre guillemets, pour l'époque, la Suisse de l'essor de la Révolution et accessoirement du trésor bernois. Qui s'établit. Donc, le trésor bernois était vraiment un pôle d'attraction pour les Bernois qui avaient grandement besoin d'argent à ce moment-là. Ça ne changera pas d'ailleurs par la suite. Donc, les Français vont de plus en plus s'intéresser au cas suisse. Et depuis Paris, il y a une camarilla qui va se mettre en place avec la Harpe, bien sûr, et Pierre Ox, lui aussi franc-maçon. Et ce sont les deux chevilles ouvrières de cette révolution suisse téléguidée depuis Paris. Et en effet, la Harpe et Ox seront accusés ultérieurement d'avoir ouvert les portes de la Confédération aux armées françaises. Ce qui est d'ailleurs pour la Harpe, ce sera une situation délicate que toute la suite de sa vie, au-delà même des événements que je rappellerai ultérieurement, il va devoir se battre contre l'idée, contre l'accusation que de nombreux cantons lui portent d'avoir été le traître qui a livré la Suisse aux Français. Quoi qu'il en soit, la révolution est amorcée. Après, on connaît les événements. L'incident de Thieron dans le canton de Vaud, deux soldats français sont tués. Les troupes françaises en profitent pour pénétrer en Suisse. Le 24 janvier, la révolution est également proclamée en terre vaudoise. Les baillis sont gentiment et respectueusement, en général, ramenés à la frontière naturelle du pays bernois. Et la France va étendre son influence sur l'ensemble de la Suisse après la victoire de Grossholtz sur les Bernois. C'est l'époque révolutionnaire, la Suisse une et indivisible. Cette situation est un bonheur pour les Vaudois qui sont érigés en région à l'égal des autres. L'ennui, c'est que les cantons qui sont créés, pour Vaud, c'est le canton du Léman, ces cantons-là ne sont pas des cantons comparables à ceux de l'ancienne Confédération, souverains et autonomes, ni dans ce qui, par rapport à ce qui deviendra en réalité par la suite. C'est des provinces et des préfectures, selon le système français qui est calqué sur la Suisse, avec ses préfectures, un gouvernement d'un directoire de 5 membres à l'époque, et quelques ministres, et une situation extrêmement centralisée. Cette situation va être le foyer de nombreuses tensions nouvelles entre les unitaires, notamment ces cantons libérés de la patte bernoise, Vaud, je l'ai dit, Argovie, Turgovie, le Tessin, Saint-Gall, qui tous vont adhérer. En tout cas, Saint-Gall moyennement, les autres avec enthousiasme. Les Grisons seront un peu différents, leur cas est un peu particulier, à la nouvelle géographie politique imposée par la France. La République est installée, elle vivra mal, déjà à cause des tensions entre unitaires et les anciens cantons, les fédéralistes, ceux qui voulaient garder une Suisse avec des cantons autonomes, indépendants, souverains, mais également parce que la Suisse devient le champ de bataille de l'Europe, que les populations suisses sont ponctionnées de soldats au service de la France, que les caisses sont également ponctionnées, surtout par l'entretien qu'elle doit fournir aux troupes françaises qui ne cessent de sillonner la Suisse en long, en large et en travers, les cols alpins faisant foi, évidemment. On connaît la suite, et évidemment, c'est que dans cette situation de chaos de plus en plus généralisé à partir de 1802, on est au bord d'une guerre civile cette fois-ci. C'est-à-dire que les Bourlapapais dans le pays de Vaud, donc ces paysans sillonnent la terre vaudoise, gâchent le château en château pour détruire les titres féodaux, qui n'avaient toujours pas été réglés auparavant. Et Bonaparte, qui entre-temps a pris le pouvoir, veut régler une situation qui lui déplaît de plus en plus. Non pas que la Suisse soit importante en soi, mais la Suisse est la terre de passage des cols alpins, des cols qu'il veut avoir sous sa domination, et pour lui, il est exclu. Et ce sera une constante dans l'histoire, même du XIXe siècle, cette Suisse qu'il convient à la fois de ménager et contrôler, parce qu'on veut que cette Suisse soit calme et qu'elle puisse permettre un emploi normal d'école alpin. Et c'est le fameux acte de médiation, d'abord le projet de la Malmaison qui est proposé par Bonaparte, qui va échouer, mais qui est assez intéressant parce que c'est la première fois que l'idée américaine d'avoir deux chambres, une des cantons et une pour le peuple, est mise en avant. Alors, l'idée sera provisoirement abandonnée, elle réapparaîtra 50 ans plus tard, ou presque, mais l'idée émerge pour la première fois. En 1803, c'est la Consulta, il convoque des délégués de la Suisse, et Bonaparte va avoir ce coup de génie de trouver un équilibre nouveau entre la Suisse ancienne et la Suisse nouvelle, qu'il veut maintenir, cette Suisse débarrassée des privilèges territoriaux, donc une Suisse de 19 cantons, les 12 anciens, plus les cantons nouveaux, les 13 anciens, plus les 6 nouveaux créés par la République helvétique. Et cette Suisse-là, Bonaparte va avoir ce coup de génie, certes, mais il ne l'a pas eu tout seul, il va vraiment s'entourer de spécialistes. Barthélemy, qui est un des personnages importants de la France républicaine, et qui a été ambassadeur en Suisse, et puis un bonhomme aussi qui a une autre réputation dans l'histoire, mais qui a aussi été actif, et dans le bon sens du terme, pour trouver, c'est Joseph Fouché, qui a travaillé sur le dossier suisse à Paris, et qui a aussi connaissait la Suisse, et qui a pu apporter des solutions utiles, et qui ont été extrêmement importantes pour le pays par la suite. Alors, l'acte de médiation s'installe. Pour les Vaudois, cette fois-ci, c'est le bonheur absolu, parce que la Confédération suisse est restaurée, chaque canton a sa constitution, peut s'organiser comme il veut, donc le principe de l'ancienne Confédération est restauré, mais les nouveaux cantons sont maintenus et ils peuvent s'organiser comme ils le veulent. Et ces nouveaux cantons, justement, à part de nouveau le cas Grison qui est particulier, vont se doter de constitutions relativement démocratiques par rapport à nos critères actuels. Il y a certes un sens électoral, il faut posséder un minimum de terres pour pouvoir voter et encore un peu plus pour pouvoir être élu, mais de nouveau par rapport aux normes du temps, ce sont des exigences relativement modestes qui ouvrent un champ politique désormais assez large en terre vaudoise, avec une angoisse malgré tout. Ces Vaudois, ils doivent tout à Bonaparte et il faut trouver un régime, un système qui soit équilibré et stable, car évidemment Vaud se sent un peu non pas comme un intrus, mais presque. Ils ont été érigés, ils ont été hissés au rang, cette fois-ci, de cantons souverains à l'égal des autres, même si la Suisse en elle-même n'est qu'un satellite de la France. Il n'empêche que sur le terrain, Vaud est un canton qui doit s'organiser, qui aura un budget, qui aura un parlement, qui aura un gouvernement, et des missions, qui va se doter de lois. Tout un travail législatif impressionnant va être accompli dans les premières années du canton de Vaud à partir de 1803. Mais ce canton de Vaud, qui a retrouvé son nom Vaud et de canton désormais, a un objectif extrêmement délicat à poursuivre. Et cet engagement, ce but va être poursuivi avec détermination par les autorités, notamment les trois principaux patrons, entre guillemets, de ce canton. C'est Henri Monod, Auguste Pidoux et Jules Muret. C'est les trois personnages clés du gouvernement local. L'ARPE, lui, est resté à Paris entre-temps. Il s'est brouillé avec Bonaparte, donc il est assigné à résidence et il le sera jusqu'en 1814. Pour les Vaudois, ce travail est mené au pas de charge avec donc trois objectifs, à la fois assurer la stabilité politique, montrer que Vaud est un fidèle membre de la Confédération, un canton loyal, l'autarcie, montrer que Vaud peut se débrouiller tout seul, n'a pas besoin des Bernois pour pouvoir offrir le bonheur à ses citoyennes et ses citoyens, c'est-à-dire, citoyens politiques, c'est citoyens, une citoyenne, c'est des, pas encore le terme, mais enfin, les habitantes du canton de Vaud. C'est donc la stabilité, c'est l'autarcie économique, une gestion saine des finances publiques et un développement économique qui peut être conduit de ce canton sans avoir besoin des Bernois. Et puis, l'autarcie militaire, et la chose militaire va acquérir une importance extrêmement importante dans la mentalité vaudoise, dans la psychologie vaudoise, car c'est en montrant qu'on peut monter une force, chaque armée, entre guillemets, suisse, c'est les contingents cantonaux, ça restera jusqu'à la fin du 19e siècle, et que les Vaudois vont apporter un soin tout particulier à cet outil militaire qui va montrer que Vaud, un, est capable de se défendre si on vient lui chercher Noise, y compris à l'intérieur de la Confédération, et d'autre part, que Vaud est prêt à faire un effort important sur le plan militaire, si les autres cantons l'exigent, pour protéger l'ensemble du corps helvétique de la jeune Confédération. Donc c'est tout ce cadre, enfin, mental, philosophique et politique qui cadre la vie de l'acte de médiation pour le canton de Vaud et la Suisse. Mais dans ce contexte-là, Vaud continue son développement aussi intellectuel avec un certain libéralisme économique, mais également intellectuel et social qui se met en place. Une société d'émulation est créée, une société des sciences physiques, qui est un peu de la continuité de ces premières ébauches qui sont nées à la fin du XVIIIe siècle et qui propagent les nouvelles technologies, si on peut employer un terme un peu anachronique, mais qui propagent les sciences nouvelles, les innovations, les nouvelles connaissances et qui font un travail considérable dans cette ambiance aussi où les sociétés d'agriculture ont travaillé toujours dans le prolongement des sociétés économiques bernoises pour l'amélioration des techniques agricoles, donc l'amélioration de l'approvisionnement alimentaire du pays. Donc, Vaud est stabilisé, et dans ce contexte intellectuel aussi, ce qui a l'air assez cloisonné malgré tout, alors c'est-à-dire que les cloisons, en réalité, c'est par rapport au groupe de Coppet, comme Étienne Hoffmann l'a souvent répété, le groupe de Coppet connaît son efflorescence sous l'acte de médiation, en gros. C'est le dynamisme du groupe de Coppet atteint quasiment son apogée, mais en même temps, cette stimulation intellectuelle qui se diffuse depuis ici n'a pas beaucoup d'interpénétration avec le reste du canton. Ce sont deux planètes qui se côtoient, mais qui ne se connaissent pas énormément, qui ne se fréquentent moyennement, sinon par des gens qui passent évidemment par là, mais il n'y a pas vraiment énormément de contacts. Il n'empêche que la vie intellectuelle vaudoise se développe par les exemples que j'ai assistés, mais aussi par cette rencontre toujours entre rationalisme et romantisme. Et c'est l'exemple, c'est les fêtes d'Unspunnen, qui ont lieu à partir de 1805, la seconde c'est 1808, auquel Germaine de Staël va assister à Interlaken. Et de nouveau, ça symbolise cette rencontre rationalisme-romantisme et quelles en sont les synthèses que l'on pourra tirer à partir de cette rencontre. Unspunnen, c'est à la fois le rappel des vieilles traditions plus ou moins réadaptées helvétiques, des montagnes, une fois de plus, la nature, les montagnes, le mythe du paysan libre qui anime et qui va aussi innerver la geste révolutionnaire, et en même temps cette rencontre avec la rationalité, la science du début du 19e siècle. Et Germaine de Staël s'inscrit également exactement à la synthèse de ces événements-là, même si Unspunnen est aussi le reflet de cette rationalité, parce que les fêtes ont été créées en réalité pour des buts touristiques. C'est les débuts du tourisme pour attirer des gens dans ces contrées malfamées. Il faut inventer de nouvelles festivités. Et Unspunnen, le tourisme culturel, entre guillemets, en tout cas festif, n'a pas attendu le XXe siècle pour s'épanouir. Il y a un coup de tonnerre qui va détruire cette harmonie, malgré tout, qui convient très bien aux Vaudois, sous la protection bienveillante de Napoléon. C'est la bataille des nations en 1813 à Leipzig. La défaite de Napoléon crée un choc. Le gouvernement vaudois, ça s'appelle le Petit Conseil, l'exécutif, est tétanisé. Il est prêt à... Même un Pidou, qui est pourtant un des hommes forts de ce gouvernement, est totalement paralysé, totalement tétanisé. C'est la panique à bord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les Vaudois se voient déjà abandonner l'ensemble de ce qui a été accompli durant les 13 années précédentes, et c'est fini, les Bernois vont revenir, point final. C'est Henri Monod qui va sonner le tocsin et qui va annoncer qu'il y a des moyens peut-être, et c'est lui qui aura l'idée d'aller chercher son copain, son très lié, Monod et la harpe, d'écrire à la harpe à Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il se souvient que la harpe est très liée avec son ancien élève, Alexandre Ier, qui lui est le chef de la coalition anti-napoléonienne. C'est lui qui passe pour le vainqueur de la liberté contre l'ogre napoléonien. Et ce contact va se faire grâce à la harpe. Henri Monod va pouvoir rencontrer Alexandre à Freiburg. Alexandre qui va leur confirmer, ça avait été fait par d'autres canaux aussi, Alexandre a confirmé qu'il tient à ce que la Suisse, telle qu'elle est issue de l'acte de médiation, devra être maintenue. Donc les Vaudois auront droit à la pérennité de leur indépendance. C'est un signe important parce qu'entre-temps, les Bernois s'agitent très vite. Le 24 décembre 1813, ils font leur appel au peuple, entre guillemets, et veulent ramener Argoviens et Vaudois à la raison, leur disant maintenant, en gros, la récréation est terminée, la mère bernoise attend ses enfants dans sa sage prévoyance. Les Bernois, les Vaudois et Argoviens sont assez peu tentés par ce retour aux sources. Les Bernois, eux, s'énervent assez rapidement. Alexandre va envoyer un homme qui va jouer un rôle important, Capodistria, le grec, qui travaille pour Alexandre, qui est l'émissaire d'Alexandre en Suisse, avec l'Epsilterne, qui est celui de Metternich. Metternich est pro-bernois, Alexandre pro-vaudois, qui va l'emporter. Et la science historique n'aime pas, et je n'aime pas non plus, je dirais, attribuer un événement à uniquement une personne, une ou deux personnes. Il y a toujours un contexte. Mais là, quand même, dans ce cas-là, je pense que l'axe, la harpe Alexandre, va jouer un rôle extrêmement important pour la suite des événements et le maintien de la dépendance vaudoise, même s'il est vrai que les puissances européennes, qui vont négocier bientôt à Vienne, avaient aussi intérêt à ne peut-être pas voir le Berne reprendre une trop grande influence au milieu de ces terres en perpétuelle agitation qu'est la Suisse. Eux, ils veulent une Suisse assagie, qui laisse tranquillement les autres la traverser d'est en ouest, nord au sud, suivant les circonstances politiques, ce qu'elle fera alors en bafouant la neutralité suisse à la longueur de mois dans ces moments-là, entre 13 et 15. Donc les puissances étrangères ont besoin d'une Suisse stable, malgré tout. Et Berne, trop puissant, serait indiscutablement un facteur de déséquilibre, et la harpe va militer alors depuis Paris, puis après avec Alexandre. À partir de janvier 1813, la harpe rejoint Alexandre, quand Alexandre entre en France, dans la reconquête, et va alors accompagner Alexandre avec un poste très important dans son entourage jusque durant tout le congrès de Vienne. Donc la harpe va avoir travaillé pour Alexandre et en même temps travailler pour le canton de Vaud et l'Argovie depuis ce poste de commandement extrêmement précieux. Et la harpe va se démener en négociant avec Castlereagh l'anglais, avec Metternich, sur des discussions qu'il rapporte dans sa correspondance où il essaie d'expliquer si vous redonnez la puissance d'antan aux Bernois, c'est une Vendée qui se prépare en Suisse. Mais le contexte est très délicat. Les Bernois créent des alliances avec les anciens patriciats, Fribourg, Soleure, mais aussi avec les Lucernois. Et vont se stipendier aussi la Suisse centrale, les acheter, en gros, pour être clair, pour qu'ils défendent l'idée d'un retour à la Suisse de l'ancien régime. Donc la Suisse est au bord de la guerre civile, d'ailleurs. C'est une pétaudière, comme le dit la harpe. Et il faudra que Capodistria et la Diète reprennent les choses en main pour rétablir la situation et enfin donner réalité aux décisions d'Alexandre, le tsar de Russie, ce qui va être fait pour finir. Mais la tension a été très grande. Vous pouvez s'adosser aux décisions tout de même d'Alexandre. Metternich va abandonner peu à peu, mais les Argoviens étaient dans une situation plus délicate. Et il y aura même des discussions de plans militaires entre Vaudois et Argoviens qui vont être négociés entre les deux cantons au cas où Berne aurait décidé de prendre les armes pour tenter de ramener Vaudois et Argoviens, entre guillemets, à la raison. Donc, la situation est calmée pour Vaud. Il y aura toujours un moment d'émotion, quand même, si je puis dire, durant les 100 jours. Joseph Bonaparte est à Prangin, pas loin d'ici. Donc, la Suisse, terre d'asile, va de nouveau devoir souffrir. Comment gérer cette situation-là pour les Vaudois, un moment d'angoisse. Est-ce qu'on va se rallier de nouveau au votre père de la nation, Bonaparte, Napoléon, ou bien marquer clairement son camp, dire maintenant on a adhéré à la Suisse nouvelle née à Vienne, il est exclu de se laisser séduire par le retour de l'aigle. En général, la loyauté des Vaudois sera claire et sera saluée, notamment par Capodistria, qui en fera rapport à son maître. Mais c'est vrai qu'il y a eu des incidents. Quelques vives l'empereur entendus en terre vaudoise qui feront tressaillir d'angoisse Mono, la harpe et les autres qui interviendront auprès de leurs amis de la région. S'il vous plaît, en gros, faites les taire. C'est trop dangereux, trop instable aujourd'hui pour que certains s'amusent à vouloir faire acte de napoléonophilie à un moment où quand même Napoléon est l'ennemi de toute l'Europe. Alors, la Suisse va se stabiliser, la neutralité sera acquise, même si, je l'ai dit, elle sera bafouée plusieurs fois. Malgré tout, certes, la Suisse ne fait pas très bonne figure à Vienne. Il y a 3 délégués officiels de la Diète, mais il y en a une cinquantaine en tout, chaque canton a le sien ou presque, plus ceux qui sont là pour le plaisir. Et donc, c'est absolument insupportable pour les puissances, parce que chaque fois qu'ils croisent un Suisse quelque part, on peut être sûr que dans la minute qui suit, on croit un autre qui dit le contraire du précédent, et ainsi de suite. Donc il y a un énervement à l'égard de la Suisse. Ça stimulera d'ailleurs l'imagination par la suite pour créer une organisation fédérale en Suisse plus forte qui donne une voix unique à ce pays, et non pas ces multiples voix, certes sympathiques et folkloriques, mais assez pénalisantes sur le long terme quand il s'agit de négocier avec des grandes puissances. Alors, malgré tout, la Suisse, il faut quand même leur laisser ça à la diète, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est la reconnaissance de la neutralité. Il ne faut pas oublier de le dire, André Hollenstein l'a très bien montré dans les travaux récents, c'est qu'on peut se moquer de ces Suisses assez désunis et indisciplinés à Vienne, il n'empêche qu'ils ont obtenu ce pour quoi ils y étaient allés, la neutralité, ce qui n'était tout de même pas négligeable. Et alors, comment c'est la restauration? Et c'est là que la rencontre, je dirais, entre Vaux et Germaine de Staël va se réaliser. La première restauration, à partir de 1815, est libérale, sous l'égide d'Alexandre. Même si ces élans mystiques commencent déjà petit à petit à le ronger depuis la fin du congrès de Vienne, il n'empêche qu'Alexandre a toujours l'aura du père du libéralisme moderne du début du XIXe siècle, celui qui a libéré l'Europe du monstre. Et cette première restauration sera d'obédience libérale, ou à tendance libérale, suivant les pays. On va la voir dans l'espace germanique, on le voit en France, et également dans les cantons suisses, et la harpe, qui est revenue en terre vaudoise à la fin de son premier mandat, qui n'a pas très bien fini d'ailleurs, avec Alexandre à Vienne, de retour à Lausanne, la harpe soutient clairement le gouvernement qui a dû, les Vaudois ont pu sauver leur indépendance, mais moyennant aussi quelques adaptations constitutionnelles. Le sens a été relevé, par exemple, dans le sens électoral que le sens d'éligibilité. Et la Suisse elle-même adhérera à la Sainte Alliance, mais il n'empêche que le courant est plutôt libéral, et avec des lois de la presse assez généreuses. Alors, ce sera toujours la Suisse qui va être désormais coincée entre une volonté plutôt libérale à l'intérieur et un monde extérieur qui va être de plus en plus réactionnaire, notamment à travers la Suisse terre d'asile. Désormais, la Suisse va devenir l'îlot au milieu de l'Europe où viennent se réfugier les révolutionnaires de toute l'Europe. On le verra dans les 1830, 1840, et même un peu au-delà. Et pour les gouvernements, enfin, ce qui tient lieu du gouvernement, c'est-à-dire une diète impuissante, ce sera tout le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y aura des pressions, la diète sur les cantons. Ne soyez pas trop généreux avec votre presse, s'il vous plaît, parce qu'on nous regarde d'un œil assez mauvais du côté de Paris ou à Berlin ou dans les capitales allemandes. Et en même temps, les cantons voudront garder cette volonté libérale, et on le verra à partir de 1830 et 1848 avec les réfugiés politiques alors, qui vont créer pas mal de tensions dans le cadre helvétique et de la Suisse en train de se créer. Et là, c'est cette Suisse qui apprend à se réunifier autour du pacte fédéral de 1814, qui essaie de créer les bases d'une nouvelle Suisse plus unie. L'esprit de la société helvétique renaît, et là on retrouve cette idée du libéralisme, les premières du libéralisme, dont Germaine de Staël a sans doute une des théoriciennes les plus importantes, que le libéralisme c'est la jonction entre la liberté individuelle et la liberté collective. L'individu est libre à condition que l'environnement politique dans lequel il vit soit libre également. C'est vraiment cette jonction entre rationalisme libéral et romantisme libéral, le moi face au tout, trouver un compromis dans cette vision de la liberté, d'une liberté individuelle, aussi économique, et qui se construit autour de cette dualité entre l'individu et le collectif qui l'entoure, en l'occurrence cette Suisse en gestation, mais qui est encore bien, bien fragile, avec sous ses pairs du libéralisme, dont l'Harpe, mais d'autres, Choquet, Oustéry, Georges Rouge en terre vaudoise, qui ont tous été déjà des partisans de ces lumières helvétiques de la fin du XVIIIe et qui reprennent du service, en quelque sorte, après la parenthèse napoléonienne, au nom du libéralisme naissant, dont Germaine de Staël est une des figures importantes. Mais cette restauration plus ou moins libérale, suivant les régions, va s'arrêter abruptement 2 ans après la mort de Germaine de Staël, en 1819, avec l'assassinat de Kotzebue, le poète accusé par les Allemands d'être l'espion du Tsar, ce qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs, mais qui passait pour l'incarnation de la réaction. Et c'est les républicains les plus extrémistes, la Burschenschaft allemande, qui venait de se créer, de société au service de l'idée d'une nation allemande, inspirée par Fichte, qui va assassiner Kotzebue. Et en 1820, ce sont les décisions de Karlsbad, où Metternich, là aussi, siffle la fin des espoirs libéraux, et c'est la reprise en main de la réaction sous l'égide de la Sainte Alliance, qui devient alors la machine de guerre qu'ont toutes les velléités libérales qui tenteront d'émerger jusqu'aux révolutions de 1830. En conclusion, j'aurais juste essayé d'hasarder deux ou trois réflexions sur ce lien justement entre Germaine de Staël et évidemment Benjamin Constant, dont je n'ai pas vraiment parlé, mais ce n'était pas vraiment le sujet non plus, mais ces liens entre Vaux, la Suisse et ces deux personnages. Alors je l'ai dit, les liens, je dirais, physiques, à la fois de présence et humain, sont pour le moins distendus. On sait que Germaine de Staël, on l'a dit, n'a jamais eu un grand amour pour cette région, même si elle s'est habituée et que la paisibilité de ces traits de nos contrées était assez aussi apaisante pour elle. Mais Benjamin Constant, lui, a plutôt essayé de les nier pour pouvoir justifier de ses prétentions politiques en France. Mais et on a toujours déduit dès lors, malgré tout, que la pensée de Benjamin Constant et de Staël avait rayonné à Constant. De Staël, on en parlait moins. Et c'est vrai que le libéralisme suisse, je l'ai dit, qui se construit, est totalement inspiré de la pensée de Benjamin Constant. Est-ce que pour autant Constant a été lu, a été compris, a été assimilé et donc traduit en acte politique dans sa contrée de naissance? Alors longtemps, il y a eu des débats autour, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de textes qui pouvaient l'étayer. En analysant la lecture que fait la Harpe de Benjamin Constant par ses propres commentaires, que j'ai essayé de mener il y a quelques années dans les annales Benjamin Constant, montre que oui, alors la Harpe n'aimait pas Benjamin Constant, il l'aimait encore moins Germaine de Staël, mais il s'est rapproché d'eux au fil du temps. Benjamin Constant, par exemple, il a essayé de plaider auprès d'Alexandre pour une pension pour Benjamin Constant. Germaine de Staël, ses propos très durs à son égard se sont apaisés là aussi avec le temps, mais indiscutablement, la Harpe est totalement imprégnée par la pensée de Constant, et il y a fort à parier que les autres grands libéraux de l'époque sont aussi des lecteurs de la Harpe, au moins de Constant, au moins à travers la Harpe. On sait que Choquet, que Oustery sont en lien permanent avec la Harpe. Donc on voit que ces rencontres sont là, et que la pensée de Staël, donc de Constant, mais aussi de Staël, vu que même si là aussi les travaux manquent, à mon sens, pour essayer de faire le départ entre ce qui appartient à Constant et ce qui appartient à Germaine de Staël dans leurs œuvres respectives, mais je pense que c'est un travail, un puzzle absolument gigantesque à mener. Mais il n'empêche que cette pensée élaborée par les deux personnes a eu, en effet, peut-être un de ses relais les plus efficaces sur le plan de l'action politique, en Suisse sans doute, mais dans le canton de Vaud, à travers le libéralisme vaudois en particulier. Je vous remercie.
Olivier Meuly, vous méritez cet applaudissement, c'était vraiment fascinant. Et moi, à l'origine étrangère, j'ai compris un peu mieux pourquoi la Suisse est tellement particulière et pourquoi la Suisse a du mal, en fait, à entrer dans quelque chose qui s'appelle l'Europe par peur. Vous me donnez peut-être raison de perdre son identité. Bon, il y a peut-être tout un discours une autre fois à nous donner sur la question européenne qui n'est pas le sujet, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Alors, nous avons l'habitude de poser quelques questions. Est-ce qu'il y a dans l'auditoire une ou deux personnes qui aimeraient faire un commentaire? Oui. Je prends le premier, après vous, monsieur.
Pour ce grand tableau qu'il nous a brossé, la situation politique du canton de Vaud à l'époque de Germaine de Staël. Je voudrais introduire ici un petit élément, un petit complément, en rappelant les liens directs que Germaine a pu tisser avec des Vaudois. D'un côté, il y a des amis de sa mère. Sa mère était vaudoise, Suzanne Curchaud, fille d'un pasteur. Elle avait des amis à Lausanne et dans le canton de Vaud, et on a une correspondance avec certains de ses amis, notamment avec les Reverdil de Nyon. Ces Reverdil étaient d'ailleurs un couple éminemment sorti de l'influence des Lumières, Et Germaine de Staël a eu du plaisir à être, à les rencontrer, même après la mort de sa mère, elle leur est restée fidèle. Et puis alors, après son grand tour d'Europe, qui l'a conduite de Coppet jusqu'à Moscou, Stockholm et Londres, après son retour en France, sur le continent, elle a noué des correspondances très suivies avec les principaux, deux des principaux dirigeants du canton de Vaud tel que vous l'avez dépeint, d'une part Pidou et d'autre part Monod. Il faut lire cette correspondance, vraiment elle s'adresse à eux en toute confiance, c'est des lettres magnifiques d'amitié, également, je dois dire, d'helvétisme. Elle partage l'espoir que Alexandre, vous avez bien fait de dire le rôle qu'il a joué dans la constitution de la nouvelle Suisse après la chute de Napoléon, mais c'est clair que ces grands Vaudois ont joué également un rôle approuvé par Germaine de Staël, qui les a rencontrés, les a reçus pendant surtout ces derniers étés à Coppet, 1814, 15 et 16. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, Benjamin Constant aussi avait, dans sa correspondance, approuvé la révolution vaudoise. Donc, de temps en temps, quand même, il se souvenait d'où il venait, puis il s'était quand même soucié de ce qui s'y passait, en estimant lui aussi que les Vaudois avaient tout intérêt à se débarrasser des Bernois.
Oui, merci. Monsieur Bellet, ma question n'est pas précisément dédiée au thème de ce soir, en relation avec le thème de ce soir. J'aurais aimé savoir, de votre point de vue, quelle est votre définition d'une nation? Et puis, quand il s'agit de la Suisse, je suis frappé par le nombre de journalistes, de politiciens aussi, qui parlent de notre pays, confédération, comme étant une nation. Alors, j'aurais aimé savoir si c'est une erreur ou pas.
Une petite heure. Alors, on ne va pas faire l'historique de la notion de nation. On connaît les définitions de Ernest Renan en particulier. Alors, par rapport à la Suisse, en effet, c'est assez intéressant. Alors, c'est clair, par rapport aux définitions classiques de l'idée de nation, la Suisse n'en est pas une. L'homogénéité, pour parler court, n'est pas le propre de la Suisse, d'où ces différences que vous évoquiez dans votre conclusion. Alors, on a essayé de contourner la chose en créant un concept qui m'énerve un peu, c'est la Willensnation, nation de volonté. Alors, c'est bien, ça sonne bien, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai non plus. C'est que la Suisse, je pense, a créé un élément de lien au fur et à mesure qui peut alors se substituer au lien national tel que l'imaginait Renan ou les romantiques allemands ou Herder et compagnie, à travers non pas seulement la volonté, mais la volonté de ne pas se faire la guerre. C'est ça, je crois, des moteurs. C'est que les Suisses, et c'est pour ça que l'histoire médiévale de la Suisse, moi-même, pris de l'influence de l'ambiance générale, a longtemps été assez narquois à l'égard de cette époque-là, mais en la creusant un peu plus, au contraire, elle est fascinante. Parce que c'est surtout dans cette époque-là, notamment après les guerres de religion, donc après le médiéval, mais la Suisse en moderne, mais ça remonte déjà avant, la Suisse est confrontée depuis ses débuts à la situation très claire, même qu'elle ne parlait pas encore le moindre mot de français, c'était ou bien les cantons trouvaient des moyens de s'arranger, ou bien alors, affaiblie, elle allait retomber dans l'orbite des Habsbourg. Le schéma était d'une clarté limpide. Et dès lors, les Zurichois, qui honnêtement n'avaient rien, mais rigoureusement rien, en commun avec les Uranais, avec les Schiswois un peu plus, avec Toggenburg. Mais c'est la guerre entre les deux pour avoir qui aurait le Toggenburg, en gros. Donc c'est un lien plutôt négatif, en l'occurrence. Mais autrement, il n'y avait rien. Mais néanmoins, après des guerres, après des conflits, les Zurichois ont fini par opter, après les guerres de Zurich, définitivement pour l'alliance avec les Waldstätten, parce qu'ils préféraient ça plutôt que de devenir une lointaine bourgade d'un empire qui, lui, s'agrandissait dans un espace allemand, germanique, disons, assez instable et incertain. Donc la Willensnation, c'est la nation de la volonté de ne pas se faire la guerre. Et les droits politiques d'aujourd'hui, alors sans faire une téléologie inadéquate, mais dans la scansion de l'histoire suisse, ces problèmes réapparaissent régulièrement. D'ailleurs, les historiens du XVIIe, du XVIIIe siècle helvétique ont montré assez récemment que, je dirais, les fondements, pas d'une démocratie directe, mais d'une tentative de trouver des solutions de compromis et d'une résolution des problèmes autrement que par la guerre, étaient déjà en germe. Et la démocratie directe va prolonger cette volonté de, ou bien on trouve des moyens de discuter et de trouver des solutions des arbitres, sinon on se fait la guerre, ou bien la guerre militaire avant la Révolution, ou économique au 19e. Le chemin de fer est à la fois le vecteur de la prospérité suisse au 19e, mais aussi un foyer de troubles continuels, de collusions entre le privé, le public, les arbitrages qui ne fonctionnent pas, et pour finir, l'aile gauche radicale, si on veut, qui va lancer le processus des droits politiques au niveau fédéral à partir des années 1860, prend l'exemple du rail. Quand ça ne joue pas entre les différents acteurs et le politique, qui peut arbitrer? Le peuple. Donc c'est cette logique, et la guerre de religion a joué un rôle extrêmement important à ce niveau-là. Au XVIe siècle, là aussi on peut se moquer de la soupe ou de la capelle ou je ne sais pas quoi, mais il n'empêche qu'à travers ces expériences-là, les Suisses ont découvert ce qu'il faudra beaucoup plus longtemps au reste de l'Europe à mettre en œuvre. C'est le principe de chaque région, chaque principauté, chaque canton chez nous décide de sa confession. Que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Un principe éminemment helvétique qui a été éprouvé sérieusement à l'époque des guerres de religion. Les Suisses ont accepté ce principe. Il faudra presque un siècle pour que les autres puissances européennes acceptent cette réalité après la tragique guerre de 30 ans et la guerre de la Ligue de la paix d'Augsbourg. Et donc voilà, et ça fait le lien avec ce que vous dites tout à l'heure. À mon avis, le problème des Suisses par rapport à l'Europe, c'est la démocratie directe. Aujourd'hui, ce qui crée la nation, avec les guillemets, alors, Suisse, à mon sens, c'est la démocratie directe.
Merci pour cette explication.
Bonjour, je suis Mme Martin. J'ai une question par rapport à 1819 et l'assassinat du philosophe. J'ai pas bien compris. Ouais, j'ai pas compris le nom. Puis c'est la première fois que j'entends cette histoire. Pouvez-vous développer?
Oui, c'est assez mal connu sous nos contrées, en effet. Auguste Kotzebue, c'est un poète assez, même très célèbre à l'époque, et qui était un réactionnaire et qui passait pour l'agent du tsar. Au sein du Saint-Empire romain germanique, enfin Saint-Empire, celui qui a succédé à l'ancien Saint-Empire romain germanique. Et Kotzebue a été assassiné à Mannheim par Karl Ludwig Sand, qui était un étudiant, membre de la Burschenschaft, et qui était la plus dure, la plus républicaine, les Noirs, comme on disait à l'époque, celle de Karl Follen, de cette Burschenschaft, ultra-républicain. Et alors, Metternich va prendre prétexte de cet événement-là pour resserrer les boulons, si vous me passez vulgairement l'expression, et ce sera les fameuses décisions de Carlsbad qui va, je dirais, désormais poser les bases de la réaction anti-libérale qui avait germé au lendemain du congrès de Vienne, pour alors poursuivre dès que ce sera l'occasion. Il y aura d'autres congrès de la Sainte Alliance qui chaque fois auront comme thème comment empêcher toute velléité libérale, révolutionnaire en Europe. Et d'où le sac de nœuds que pose la Suisse à ses puissances, qui, elle, avec son système de cantons libres, où chaque canton fait quand même plus ou moins ce qu'il veut, est plus ou moins libéral, d'où la diète qui essaie de dire maintenant, essayez voir de mettre des lois un peu plus dures, il y aura des conclusions, on dit des principes, la diète va adopter des règles qui étaient censées obliger les cantons à durcir leur liberté de la presse, par exemple. Ça marchera plus ou moins bien. Donc là, c'est cette tension qui va naître. Mais l'événement en question était assez connu à l'époque. Chateaubriand en parle, hein, d'ailleurs. Il l'évoque. Georges Boiseau, qui était un ancien révolutionnaire vaudois, et qui sera ensuite... Alors, les Vaudois auront peur après Napoléon. Hein, le régime vaudois va se durcir, lui aussi, de plus en plus, de peur d'attirer l'attention de la Sainte Alliance sur elle, et puis que ça suscite des troubles dans le canton de Vaud. Mais un Boiseau cite l'événement dans ses propres mémoires manuscrits. Donc l'événement à l'époque, aujourd'hui on l'a largement oublié, hélas, mais à l'époque il avait vraiment été reconnu comme ce moment charnière qui va alors donner le moyen à Metternich de se dire maintenant j'ai enfin le levier pour stopper cette avancée libérale qui évidemment ne lui convenait pas.
Je vais vais arrêter court ici parce que nous avons déjà un peu dépassé notre temps. Alors, c'était un immense honneur de vous avoir ici, docteur en politique et lettres et grand historien de renommée. Moi, j'ai toujours un peu l'habitude de sortir de votre discours les choses qui sont intéressantes. Cette fois-ci, un seul commentaire. J'ai un ami qui dit que quand ça vient de Berne, il faut s'en méfier. Donc, est-ce que c'est possible que les animosités continuent? Pas besoin de répondre.
Non, c'est un commentaire. C'est que si aussi Berne a été bloquée dans ses ambitions, c'est que Bâle et Zurich étaient plutôt du côté des Vaudois. Parce qu'ils sont bien dit, on ne va quand même pas laisser ces Bernois retrouver leur territoire gigantesque au plein cœur de la Suisse, ce qui serait au détriment de nous. Donc, en effet, qu'on soit Vaudois, Zurichois ou Bâlois, il se méfie de Sylvain Berne.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous savez, la soirée continue dans les caves.